Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Anna Moitier, fondateur et directeur de la société Paxion. Bonjour Anna Moitier.
Bonjour Myriam.
Une chose extrêmement importante, vous êtes donc trois associés, c'est une société qui existe depuis à peu près 18 ans, qui fait un peu le grand écart entre bailleurs sociaux et promoteurs privés. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez commencé il y a 18 ans à travailler sur ce créneau ?
Oui, alors en fait historiquement, j'ai commencé une activité comme celle-là en réalité en 94. J'étais dans l'aménagement avant. Un jour, j'ai été embauché par un promoteur qui faisait à l'époque que de l'immobilier d'entreprise.
Et qui avait décidé d'investir dans le logement, c'est ça ?
Qui s'est dit qu'il voulait faire du logement, qui s'est aperçu qu'à l'époque, en 1994, crise de l'immobilier, c'était le marasme absolu. L'immobilier privé, ça ne marchait pas fort. Que la seule chose qu'on arrivait encore à produire, c'était des logements sociaux. Et puis à l'époque, a eu effectivement quand même le nez de se dire que ça serait bien de faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte des bailleurs sociaux.
Pourquoi les bailleurs sociaux avaient besoin de maîtrise d'ouvrage déléguée ? Ils n'avaient pas en leur sein la possibilité de faire eux-mêmes ? Ils n'arrivaient pas à débloquer les choses sur les fonciers ?
Alors, voilà.
C'était quoi un petit peu le problème de foncier ?
Oui, ils n'avaient pas forcément l'accès aux fonciers, puisque pendant 6 ans, très clairement, on a utilisé pour faire des logements sociaux des terrains qui nous étaient proposés pour faire de la promotion privée en réalité. Hein. Il n'y a pas réellement, et c'est toujours vrai aujourd'hui, de services fonciers chez les bailleurs sociaux comme il y en a chez les promoteurs.
Il n'y a pas de développement, quoi.
Il n'y a pas vraiment de services fonciers. Il n'y a pas de gens qui font du remembrement foncier. Mm-hmm. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux travaillent en général...
C'est un peu compliqué pour un bailleur.
C'est très compliqué pour un bailleur. Donc ils travaillent en général sur des terrains déjà préexistants, constitués, publics ou plus ou moins publics, ou en tout cas d'un seul tenant, là où un promoteur va aller regrouper 10 petits terrains, des maisons, des stations de services affectés pour se fabriquer du foncier, en fait. Donc on a démarré là-dessus, ce qui devait être une activité que personne n'avait jamais fait avant, hein, très clairement, c'était totalement...
Donc ça veut dire que vous avez eu le nez, et jusqu'à il y a peu de temps, votre société a très bien fonctionné, puisque vous avez apporté à la fois aux bailleurs sociaux et puis aux VEFA, puisque en fin de compte, vous avez créé votre société au moment où les VEFA ont commencé à naître.
Oui, mais c'est totalement un hasard, c'est-à-dire que j'ai créé effectivement la société début 2000, et c'est vrai qu'un mois après, ça a coïncidé avec l'autorisation des VEFA. C'est le hasard complet. J'avoue même qu'à l'époque, l'autorisation de la VEFA par les promoteurs ou bailleurs, j'en voyais moyennement l'intérêt. J'étais un peu circonspect sur les discours qu'on entendait. Objectivement, aujourd'hui, effectivement, on en fait beaucoup. On travaille aujourd'hui sur 500-600 logements par an, hein, bon an, mal an, depuis la création de la société.
Voire parfois, ça représente 50% de l'activité d'un bailleur, hein. La VEFA.
Oui, bah aujourd'hui, ça a pris une importance accrue. C'est vrai que nous, de notre côté, aujourd'hui, on a à peu près 2/3 d'activité qui est pour des promoteurs et 1/3 pour des bailleurs en direct ou des associations. Et plus une activité d'aménagement, on va dire, que le côté d'aménageur ou de collectivité.
Vous faites même de l'aménagement, c'est-à-dire vous prenez le travail des aménageurs ?
Non. En fait, on intervient en général sur le montage. C'est des assistances au montage. Notamment, ça a été par exemple de sortir les 1500 premiers logements de l'opération Sénarche, quand elle a été décoincée après 8 ans. Ça a été de sortir des logements sociaux sur la ZAC de Boulogne, d'Ile-Seguin, à l'époque où effectivement il y avait tout sauf les logements sociaux et où ça, le maire de l'époque s'énervait un petit peu. Ça peut être aussi des fois de piloter une consultation.
Donc vous avez l'habitude de faire le grand écart. Comment vous allez faire aujourd'hui avec, je dirais, les annonces récentes pour faire justement le grand écart entre la demande dans les zones tendues toujours plus importante de logements, voire de logements sociaux, et puis cette crispation actuelle, hein.
Alors c'est plus qu'une crispation, puisque là il y a très clairement quand même une attaque contre le logement social avec la baisse de l'APL ciblée uniquement sur les logements sociaux, la baisse des loyers qui est en face. Or quand on touche au loyer, c'est la recette récurrente tous les mois, tous les ans, c'est infiniment plus important que les aides à la pierre qu'on peut réduire jusqu'à zéro à la fin sans vraiment de dommages. Donc là, aujourd'hui, entre la hausse de la TVA sur le logement social qui a été alignée sur celle de LLI qui est au loyer du Pinel et la baisse de loyer imposée aux bailleurs sociaux, on sait qu'il va y avoir une réduction de l'activité de logement social dans ce pays, c'est inévitable.
Et donc
les bailleurs ont déjà annoncé, hein, de toute manière.
D'accord, de combien, on va dire, au doigt mouillé, c'est 30%, 40%, ça peut aller plus loin?
Sur le national, ça peut être à peu près de 50%. Mm-hmm. Après, il y aura des disparités selon les régions. Hein, je vois un gros office du Nord qui a annoncé déjà 70% de baisse d'activité, hein, de production. Un groupe comme Polylogie a annoncé entre 30 et 50%. Ça, c'est la région parisienne. Pas seulement, mais c'est ça. Ça risque d'être plutôt entre 25 et 30% en Ile-de-France et jusqu'à 80% dans certaines régions.
D'accord, mais ça veut dire que c'est peut-être une manière aussi de regrouper des petits bailleurs, de les obliger à, parallèlement, je dirais, à cette baisse d'activité, à regrouper et à regrouper les moyens.
Alors, c'est effectivement un des objectifs affichés, hein. C'est vraiment de réduire le nombre de bailleurs sociaux à cause d'un fantasme, tu es probablement d'ailleurs croyance sincère de la part des gens qui ont pondu les textes, qui est effectivement qu'en regroupant les bailleurs, on va générer des grosses économies d'échelle en gestion. Ce qui est malheureusement pas vrai, sinon on le constaterait déjà, rien qu'en comparant les coûts de gestion au logement des gros bailleurs et des petits, et on voit que c'est pas, y a pas de corrélation entre les deux. Donc il n'y a pas forcément d'économie d'échelle quand on oblige les bailleurs à se regrouper. Voilà, on est un petit peu dans une logique générale, si on veut, c'est comme de regrouper les communes ou de faire des métropoles.
Par contre, ça va générer aussi une baisse d'activité des promoteurs. Et comment les promoteurs font pour justement équilibrer cette baisse d'activité qui parfois représente un nombre important de logements?
Alors, il y a une baisse d'activité qui va être, à mon avis, ciblée. C'est-à-dire que même si on prend la région parisienne, puisqu'on est en Ile-de-France ici, les bailleurs vont arbitrer très clairement entre les opérations qu'ils feront et celles qu'ils ne feront pas. On voit déjà un certain nombre d'opérations qui sont abandonnées. Elles sont en deuxième, troisième couronne actuellement. C'est-à-dire que le bailleur qui va avoir deux fois moins de fonds propres à mettre dans ses opérations qu'avant, bon, il pourrait effectivement faire deux fois moins de logements. Il pourrait aussi saupoudrer. Ils vont plutôt effectivement trouver un chemin entre les deux. Aujourd'hui, je crois qu'il va y avoir une grosse baisse d'activité dans la Grande Couronne, hein, Seine-et-Marne et compagnie, ou Sud-Essonne et tout ce qu'on veut, pour se resserrer sur les zones les plus tendues, les plus valorisées aussi.
Alors justement, par rapport à ce point-là, et pour ne pas finir cette interview sur une note pessimiste, on a certaines coopératives HLM qui commencent d'une manière un petit peu induite à séparer le foncier du bâti. C'est un levier extrêmement important pour réduire le coût de la construction et le coût final, je dirais, du logement. Est-ce que vous ne croyez pas que si on développe un peu ce type d'activité, on peut avoir un ressaisissement, juste histoire de ne pas finir sur une note trop pessimiste aujourd'hui.
La dissociation, elle se fait déjà un petit peu.
Mais peut-être pas assez de
non,
manière...
Non, il y a des faits culturels, on va dire, en France par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre.
Nous ne sommes pas les anglo-saxons.
Nous ne sommes pas à Londres. Maintenant, il y a le PSLA est tout typiquement, effectivement, un dispositif comme celui-là. Alors, il a un petit côté usine à gaz qui décourage un certain nombre d'opérateurs parfois. Mais le PSLA, le principe de location et de cession, de sécurisation HLM par le 1% aussi, c'est un petit peu tout ça, en fait.
Mais de la même manière que les jeunes couples ne souhaitent pas nécessairement, je dirais, posséder leur voiture, peut-être qu'ils ne sont pas dans l'obsession de posséder leur logement, même s'il y a un problème, je dirais, historique de transmission.
Ah, mais on est bien d'accord. C'est-à-dire que effectivement, c'est aussi un fantasme des politiques. Hein. On a entendu à une époque toute une campagne électorale se faire sur la France de propriétaire. Comme si tout le monde donnait à tout prix à devenir propriétaire de son logement.
C'est notre histoire. On a des châteaux, on a des maisons, puis on a son petit logement à transmettre à ses enfants.
Oui, sauf que si on regarde un petit peu réellement, si on fait des comparaisons internationales, même simplement au niveau de l'Europe d'ailleurs, on s'apercevra que le pays de propriétaire absolu, avec 98,5% de propriétaires occupants sur le continent européen, ça s'appelle l'Albanie, et que le pays de locataires, où il y a 30% de propriétaires, c'est la Suisse. Et juste derrière la Suisse, dans les pays de locataires, on trouve la Scandinavie, l'Allemagne,
l'Autriche,
etc.
On met son investissement ailleurs.
Peut-être, mais il n'empêche que, en fait, c'est un peu un phénomène général, mais on le retrouve en France aussi. C'est-à-dire que la région, on est à peu près à 56-58% de propriétaires en France. Ça tombe autour de 40% dans la région riche, qui est l'Île-de-France. Et ça tombe encore à 36% dans le département riche de la région riche qui est les Hauts-de-Seine. Neuilly est une ville de locataires, en fait. Hein, les vrais riches sont locataires. Les très, très riches logent à l'hôtel toute l'année. Donc, c'est vrai que... effectivement, c'est pas, y a pas de corrélation. C'est plutôt un indicateur de développement. La forte proportion de propriétaires occupants dans un pays, c'est l'inverse, en fait.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui ferait que lorsqu'on est un jeune couple et qu'on a été, élevé dans cette idée que être propriétaire, c'est quelque chose de formidable, on peut changer d'avis, c'est parce qu'on a potentiellement un logement plus grand, qu'il y a des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. Il y a très, très peu sur le marché d'investisseurs qui font de l'investissement locatif pour un plus grand nombre.
Hein. Absolument. D'ailleurs, en dehors des bailleurs sociaux, en fait, l'investissement en bloc, comme on dit, c'était vraiment l'immeuble.
Les anciennes banques et assurances qui achetaient.
Les banques, assurances, il n'y en a quasiment plus. Les logements qu'ils ont achetés dans les années 90, notamment, ils les ont revendus, trois fois le prix d'achat d'ailleurs, soit dit en passant.
Il y a les foncières quand même.
Ensuite, donc aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Et ce qu'on appelle investisseurs, ce sont des particuliers à qui on vend un produit fiscal un petit peu illusoire. En général, à 800 km minimum de l'endroit où ils habitent, parce que le but est qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont acheté, c'est toujours mieux.
Ça, malheureusement.
C'est vrai que ça a participé, effectivement, à la fois la production de logements dans des zones totalement détendues, qui vont être devenir des copropriétés dégradées en 15 ans et pas en 50, comme la vague précédente.
Bon, j'essaye de finir sur une note optimiste, mais vous ne m'y invitez pas, Alain. Demain, s'il y a un peu plus d'investisseurs qui se mettent sur le marché du locatif à plus grande échelle, est-ce que quelque part, ça peut, porter un nouveau produit, voire une nouvelle attractivité vers le locatif?
Ah, oui, bien sûr. Oui.
Privé?
Oui. Très clairement, il faut développer le locatif privé aujourd'hui.
Bon.
Il faut développer le locatif social. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est recherché aujourd'hui. Le locatif intermédiaire... Le LLI, notamment, qu'on a aujourd'hui, qui est le fer de lance de la politique gouvernementale, il ne concerne pas beaucoup de gens de plus que le PLS, qui lui est compté dans les logements sociaux. Donc, ce n'était pas forcément la priorité. Mais c'est vrai, bien sûr, qu'il faudrait rétablir un petit peu le logement locatif pour les gens qui ne sont pas dans les plafonds du HLM. Oui,
d'accord. Et bien, voilà une piste formidable. Merci à la moitié. Je suis ravie de vous avoir reçu. Et puis, l'année prochaine, peut-être pour une autre recette miracle.
Mais c'était un plaisir, mais je n'ai pas de recette miracle.
Bon, on va essayer d'être optimiste. Merci, chers auditeurs. À bientôt sur nos antennes, sur Radio Immo, évidemment.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.